8. La flotte égyptienne et un certain nombre d'autres vaisseaux qui avaient suivi les fugitifs relâchèrent au port de Kénopolis, près du cap Thénard. 10 fois repoussées par le silence obstiné d'Antoine, les femmes de Cléopâtre parvinrent enfin à amener une entrevue entre les deux amants. Ils soupèrent et passèrent la nuit ensemble. Oh, misérable faiblesse humaine ! Plusieurs amis, échappés à la défaite, apportèrent des nouvelles. La flotte avait résisté longtemps, mais tous les vaisseaux qui n'étaient pas coulés ou brûlés étaient maintenant au pouvoir d'Octave. L'armée gardait ses positions et paraissait vouloir rester fidèle. Antoine envoya sur le champ des courriers et Canidius, avec ordre de ramener ses troupes, et lui-même s'embarqua pour la Cinéraïque, où il avait laissé plusieurs légions. Un de ses vaisseaux portait ses bijoux, ses objets précieux, et toute la vaisselle d'or et d'argent qui lui avait servi à traiter les rois alliés. Avant de quitter Kénopolis, Antoine partagea ses richesses entre quelques amis qu'il contraignit à chercher asile en Grèce, refusant de les laisser suivre plus longtemps sa fatale destinée. En se séparant d'eux, il les raisonnait amicalement, les consolait et souriait à leurs larmes d'un sourire triste et bienveillant. Cléopâtre avait quitté la Grèce plusieurs jours avant Antoine. Elle était pressée de retourner en Égypte, craignant que la nouvelle du désastre d'Actium n'y provoquât une révolution. Afin de donner le change au peuple pour quelques jours et d'avoir ainsi le temps de prendre ses mesures, elle entra dans le port d'Alexandrie avec l'appareil du triomphe. Ses vaisseaux, la proue ornée de couronnes, retentissaient des chants de victoire, des accords des flûtes et des sistres. Dès qu'elle fut réinstallée dans le palais, Cléopâtre fit mettre à mort plusieurs personnages dont elle redoutait les intrigues. Ses supplices, qui profitaient au trésor royal, car la mort des coupables, ou prétendus tels, entraînait la confiscation de leurs biens, délivrèrent Cléopâtre des craintes d'une révolution immédiate. Mais la reine n'en gardait pas moins l'effroi de l'avenir. Elle restait sous l'impression de sa terreur d'Actium. Parfois, hantée par l'idée du suicide, elle voulait une mort fastueuse comme l'avait été sa vie. Elle fit construire au bord de la mer, à la pointe du cap Lochias, un immense tombeau pour s'y brûler avec ses trésors. Un autre jour, elle pensait à la fuite. Par ses ordres, un certain nombre de ses plus gros vaisseaux furent transportés à grand renfort de bras, de machines et de bêtes de somme, de l'autre côté de l'isthme, dans la mer Rouge. Elle rêvait de s'embarquer avec toutes ses richesses et d'aller recommencer dans quelque contrée inconnue de l'Asie ou de l'Afrique une nouvelle existence, voluptueuse et magnifique. Antoine ne tarda pas à revenir à Alexandrie. Il était dans le plus morne découragement. Son armée d'Hyrcanie, abandonnée par Canidius qui avait pris la fuite, s'était rendue à Octave après 7 jours d'hésitation. En Cyrénaïque, il n'avait pas même pu voir son lieutenant Scarpus qui, ayant pris parti pour les Césariens, l'avait menacé de le faire tuer. Hérode, sa créature, qu'il avait fait roi des Juifs, avait envoyé sa soumission au vainqueur d'Actium. Partout la défection, chez les alliés comme dans les légions. Antoine en arrivait à douter même de Cléopâtre. C'est à peine s'il voulut la voir. Irrité contre la cruauté des dieux et plus encore contre la perfidie des hommes, il résolut de passer dans la solitude les tristes jours que ses ennemis lui laisseraient à vivre. L'histoire de Timon, le misanthrope d'Athènes, qu'on lui avait contée en des temps plus heureux, lui revint à la mémoire. Décidé à vivre comme Timon, il s'établit sur le môle désert du Posidion et s'occupa d'y faire élever une tour qu'il voulut appeler le Timonion. Cléopâtre ne s'abandonnait pas si facilement à la destinée. Sujette, au moment du péril, à des défaillances de courage auxquelles Antoine était inaccessible, le danger immédiat passé, elle recouvrait son énergie. Avec l'imagination emportée qu'avait Cléopâtre, elle ne pouvait désespérer ni tout à fait, ni longtemps. Elle apprit que ses vaisseaux, transportés dans la mer Rouge, venaient d'être brûlés par les Arabes. La fuite lui était interdite. Elle organisa la résistance. Tandis qu'Antoine perdait son temps à jouer aux misanthropes, la reine levait de nouvelles troupes, équipait de nouveaux vaisseaux, négociait de nouvelles alliances, réparait les fortifications de Péluse et d'Alexandrie, distribuait des armes au peuple, et pour animer les Alexandrins à la défense de leur ville, elle faisait inscrire son fils Césarion sur le rôle de la milice. Antoine admira le courage et l'activité de Cléopâtre. Sollicité par ses amis, et d'ailleurs là de la solitude, il rentra au palais. La reine le reçut comme au jour fortuné où il revenait de Cilicie ou d'Arménie. Il y eut encore avec les amis de la dernière heure des banquets, des fêtes, des orgies. Seulement, les inimitables changèrent de nom. Ils s'appelèrent les inséparables dans la mort. Le choix de ce nom funèbre, pris autant par résignation que par bravade, révèle assez l'état d'esprit des deux amants. Antoine, il semble, n'espérait plus. Cléopâtre gardait encore l'espoir, mais avec des intermittences de sombre découragement. Ces jours-là, elle descendait dans les cryptes du palais, près des prisons des condamnés à mort. Des esclaves les tiraient par groupes de la geôle pour essayer sur eux les effets des poisons. Cléopâtre assistait, avec une curiosité plus douloureuse encore que cruelle, à la terrible agonie des patients. Les expériences recommençaient souvent, car la reine ne pouvait trouver le poison qu'elle rêvait, le poison qui foudroie sans secousse et sans souffrance. Elle remarquait que les toxiques violents tuaient vite, mais avec d'atroces tortures, et que les poisons moins énergiques donnaient d'interminables agonies. Cléopâtre pensa aux piqûres des serpents. Après de nouveaux essais, elle reconnut que le venin d'une vipère d'Égypte, nommée aspis en grec, ne causait ni convulsions ni aucune sensation pénible, et amenait, par l'assoupissement, de plus en plus profond, une mort douce, semblable au sommeil. Quant à Antoine, comme Caton et comme Brutus, il avait son épée. Au milieu de ses préparatifs de défense et de ses préparatifs de mort, les vaincus d'Actium pensèrent à négocier avec leurs vainqueurs. Octave, d'abord rappelé à Rome par la menace d'une sédition chez les vétérans, s'était, dans le courant de l'hiver, rendu en Syrie, où se concentraient ses troupes. Antoine lui écrivit. Il rappelait leur ancienne amitié, alléguait ses services, s'excusait de ses torts, et terminait en s'engageant à déposer les armes sous la condition de vivre à Alexandrie comme un simple particulier. Octave ne daigna pas répondre. Il ne répondit pas davantage à une seconde lettre dans laquelle Antoine proposait de se tuer, pourvu que Cléopâtre continuât de régner sur l'Égypte. La reine, de son côté, et à l'insu d'Antoine, dépêcha un messager à Octave avec de riches présents. Moins généreuse que son amant qui offrait sa vie pour lui assurer la couronne, elle séparait sa cause de la sienne. L'envoyé égyptien représenta à Octave que sa haine pour Antoine ne devait pas s'étendre à la reine, qui était innocente des derniers événements. « C'est Rome, disait-il, qui a déclaré la guerre à l'Égypte pour en finir avec Antoine. » Provoquée et menacée, Cléopâtre n'a-t-elle pas été contrainte d'armer pour sa défense? Mais maintenant qu'Antoine est vaincu, réduite à s'enfuir ou à se donner la mort, les Romains peuvent sans péril se montrer cléments envers Cléopâtre et lui laisser le trône. Ils y ont plus d'intérêt qu'à forcer cette puissante reine à une lutte désespérée. Octave se considérait déjà comme le maître de l'Égypte et du monde. Il ne craignait pas le tronçon d'épée qui restait dans la main d'Antoine. Il craignait moins encore les débris de l'armée de Cléopâtre et les épaves de sa flotte. Mais deux choses demeuraient hors du pouvoir du tout-puissant empereur. L'immense trésor de Cléopâtre qu'il avait escompté pour payer ses légionnaires, et Cléopâtre elle-même qu'il voulait faire figurer dans son triomphe. Cléopâtre pouvait échapper aux Romains par la mort, le trésor par le feu. Les traîtres et les espions ne manquaient point dans Alexandrie. Octave savait par leurs rapports que la reine expérimentait des poisons et qu'elle avait amoncelé toutes ses richesses dans son futur tombeau. Il se vit réduit à ruser avec l'Égyptienne. Il accepta ses présents et, se croyant autorisé par les paroles de l'ambassadeur à proposer un pareil marché, il dit que si la reine faisait tuer Antoine, elle conserverait la royauté. Peu de jours après, craignant que cette diplomatie quelque peu brutale restât sans effet sur Cléopâtre, Octave lui dépêcha Tiréus, un de ses affranchis. En Égypte, Tiréus parla haut, devant Antoine et à la cour, du juste ressentiment d'Octave et de ses arrêts sévères. Mais ayant obtenu sans peine une audience secrète de Cléopâtre, il lui dit que son maître l'avait chargé de l'assurer de nouveau qu'elle n'avait rien à craindre. Pour la convaincre, il feignit de lui révéler qu'Octave l'aimait comme naguère l'avait aimé et César et Antoine. Cléopâtre eut plusieurs entretiens avec Tiréus et lui témoigna publiquement beaucoup d'amitié. Antoine prit l'éveil et soupçonnant chez Cléopâtre soit la femme, soit la reine, il usa de ce qui lui restait de pouvoir pour se venger de Tiréus. Au mépris de sa qualité d'ambassadeur, il le fit battre de verges et le renvoya tout sanglant à son maître. La colère d'Antoine prouve que Cléopâtre n'avait pas écouté sans attention les confidences de Tiréus. Une femme croit aisément à ces sortes de déclarations, surtout quand elle a été beaucoup aimée. Cléopâtre, il est vrai, avait alors 37 ans, mais en gardait-elle moins de confiance en sa beauté, si souvent victorieuse? Il est vrai aussi qu'elle savait qu'Octave ne l'avait jamais vue, sauf peut-être 13 ans plus tôt, à Rome, après la mort de César. Mais son universelle renommée de séduction ne suffisait-elle pas à inspirer, sinon précisément l'amour, du moins un vague désir et une ardente et attractive curiosité? Cléopâtre avait aimé Antoine avec passion, mais autant que sa force et sa mâle beauté, la gloire et la puissance du triumvir avaient provoqué, affermi, exalté cet amour. Maintenant, Antoine était vaincu, fugitif, trahi par ses amis, abandonné par ses légions. Lui-même, sans espérance et sans courage, semblait se courber sous la destinée. Sa ridicule retraite dans le Timonion, après la défaite d'Actium, alors que Cléopâtre, prise d'une activité fébrile, préparait tout pour une suprême défense, avait mis au cœur de la reine plus de mépris que de pitié. Les femmes ne comprennent ni ne pardonnent ces crises de découragement qui, à certains jours, abattent les plus vaillants. Si peu d'amour qu'elle conserva pour son amant, et si troublée qu'elle fut par les révélations de Tiréus, Cléopâtre ne pensait cependant pas à faire tuer Antoine ou à le livrer à Octave. Mais qu'Antoine, menacé dans Alexandrie, abandonné par ses derniers légionnaires, et n'ayant plus que des troupes égyptiennes d'une fidélité suspecte, s'enfuit en Numidie ou en Espagne et la délivra de lui, c'est peut-être ce qu'elle ne pouvait se défendre d'espérer. Vers le milieu du printemps de l'année 30, on apprit à Alexandrie qu'une armée romaine avait franchi la frontière occidentale de l'Égypte. Antoine rassembla quelques troupes et marcha à la rencontre de l'ennemi. Une bataille s'engagea sous les murs de la ville forte de Parétonium, qui était déjà tombée au pouvoir des Romains. Antoine, luttant avec une poignée d'hommes, fut repoussé. Quand il revint à Alexandrie, Octave n'en était plus qu'à 2 marches. Pendant que son lieutenant, Cornelius Gallius, pénétrait en Égypte par la Cyrénaïque, lui-même y était entré par la Syrie et avait pris Péluse, après une résistance feinte ou réelle, mais en tout cas fort courte. À la nouvelle de la reddition de Péluse, les derniers Romains restés dans le parti d'Antoine crièrent à la trahison disant que Séleucus avait livré la ville après les ordres mêmes de Cléopâtre. Est-il vrai que la reine eût donné de pareilles instructions? On en peut douter. Toutefois, le trouble d'esprit où se trouvaient alors Cléopâtre et ses secrètes espérances provoque ses soupçons. Pour se justifier, l'Égyptienne remit à Antoine la femme et les enfants de Séleucus et lui proposa de les faire mettre à mort. C'était donner une preuve très peu certaine de son innocence. Antoine dut s'en contenter. Sa colère tomba devant les protestations de Cléopâtre et les larmes, vraies ou fausses, qu'elle versa devant lui. Au reste, il n'était plus temps de récriminer, il fallait combattre. Octave avait assis son camp sur des hauteurs, à 20 stades à l'est d'Alexandrie. Antoine, ayant poussé en personne une forte reconnaissance de cavalerie dans cette direction, se heurta, non loin de l'hippodrome, contre toute la cavalerie romaine. Un furieux combat s'engagea où, malgré leur grande supériorité numérique, les Romains furent rompus et mis en pleine déroute. Antoine les poursuivit jusqu'au retranchement du camp, puis il rentra dans la ville, retrempé par cette victoire, peu importante sans doute, mais brillante cependant et de bon augure. Il sauta à bas de son cheval devant le palais, et sans prendre le temps de quitter ses armes, il courut, casqué, cuirassé, encore couvert de sang et ruisselant de la sueur du combat, embrasser Cléopâtre. La reine, s'abusant sur l'importance de cette escarmouche, se sentit renaître en même temps à l'espérance et à l'amour. Elle retrouvait son Antoine, son empereur, son dieu de la guerre. Elle se jeta avec passion au cou d'Antoine, se meurtrissant les seins contre sa cuirasse. En cette minute d'effusion sincère, elle se reprocha douloureusement, si elle ne l'avait commise, la trahison de Péluse. Et les confidences qu'elle avait souffertes de l'envoyé d'Octave lui revinrent à la pensée, comme un poignant remords. Cléopâtre voulut passer les soldats en revue. Elle les harangua, et s'étant fait désigner celui qui s'était montré le plus vaillant, elle lui donna une armure d'or massif. Antoine, revenu à l'espoir, n'avait plus l'idée de négocier. Dans cette même journée, il envoya un héros à Octave, mais c'était pour l'inviter à vider leur querelle dans un combat singulier en présence des deux armées. Octave répondit dédaigneusement qu'Antoine n'avait plus d'un autre chemin pour aller à la mort. Cette parole, qui indiquait tant d'assurance chez son ennemi, frappa Antoine comme un présage funeste. Soudain précipité de ses espérances chimériques, il vit sa situation dans sa sombre réalité. Résolu, cependant, à livrer le lendemain une dernière bataille, il commanda un repas somptueux. « Demain, dit-il, il sera peut-être trop tard. » Le souper fut triste, comme un banquet de funérailles. Les rares amis qui lui étaient restés fidèles gardaient un silence oppressé. Quelques-uns pleuraient. Antoine, affectant une confiance qui n'était plus en lui, leur dit, pour les ranimer, « Ne croyez pas que je ne chercherai demain qu'une mort glorieuse. Je combattrai pour la vie et pour la victoire. » Au point du jour, tandis que les troupes prenaient leur position face au camp romain et que la flotte égyptienne, qui devait concourir à l'action en attaquant la flotte d'Octave, doublait le cap Lochias, Antoine se posta sur une éminence d'où il dominait la plaine et la mer. Les vaisseaux égyptiens s'avancèrent en ordre de bataille contre les liburnes romaines. Mais, arrivés à 2 portées de flèches, les rameurs élevèrent en l'air leurs grands avirons. Le salut fut rendu par les Romains, et aussitôt les 2 flottes, se mêlant et n'en faisant plus qu'une seule, voguèrent de conserve, la proue tournée vers le port. Presque au même moment, Antoine voit sa cavalerie, cette cavalerie qui la veille s'est si intrépidement battue, s'ébranler sans ordre et passer du côté d'Octave. Dans les lignes romaines, les trompettes et les cors sonnent l'attaque. Les légions s'élancent en avant aux cris accoutumés, « Cominus, Cominus, de près. L'infanterie d'Antoine n'attend pas le choc. Elle se débande et se précipite vers la ville en entraînant son chef dans sa déroute. Antoine, ivre de fureur, proférant les menaces et les imprécations, frappant les fuyards du tranchant comme du plat de l'épée, rentre dans Alexandrie en criant qu'il est trahi par Cléopâtre, livré par cette femme à ceux qu'il n'a combattus que pour l'amour d'elle. Cléopâtre n'avait plus le pouvoir de trahir ou de sauver Antoine. Elle-même, la nouvelle déesse, la reine des rois, elle était abandonnée par son peuple, comme lui, le grand capitaine, était abandonné par son armée. Leur cause était perdue. Qui aurait voulu s'y dévouer? Dans la journée et dans la nuit précédente, des émissaires d'Octave avaient travaillé les légionnaires et les Égyptiens, promettant aux uns l'amnistie, aux autres la sauvegarde. Le valeureux cavalier à qui la veille Cléopâtre avait donné une armure d'or n'avait même pas attendu le matin pour passer dans les lignes romaines. Dans la nuit même, il avait déserté. À la vue des fuyards qui débouchent dans la ville comme un torrent, Cléopâtre s'épouvante. Elle sait les soupçons d'Antoine. Elle connaît ses terribles accès de colère. Déjà, elle est familiarisée avec la mort. Mais elle veut la mort la plus douce, la mort sœur du sommeil. Sa chair frissonne et se révolte à la pensée du glaive d'Antoine. Elle a la vision de hideuses blessures. Elle frappée au sein, au ventre, au visage peut-être. Quant à tenter de calmer la fureur d'Antoine, la reine n'en a ni la force ni le courage. Éperdue, Cléopâtre quitte le palais avec Iras et Charmion. Elle se retire dans son tombeau, en fait fermer la porte, et afin d'ôter à Antoine l'idée de forcer ce refuge, elle ordonne qu'on lui dise qu'elle est morte. Antoine, qui court comme un fou dans les salles désertées du palais, apprend la nouvelle. Sa colère se fond en larmes. « Qu'attends-tu de plus, Antoine ? » s'écrie-t-il. « La fortune t'arrache le seul bien qui te faisait aimer la vie. » Il commande à son affranchi Héros de le tuer. Puis, en dégrafant sa cuirasse, il adresse ce dernier adieu à Cléopâtre. « Oh, Cléopâtre, je ne me plains plus d'être privé de toi, puisque dans un instant je vais te rejoindre. » Héros cependant a tiré son épée. Mais au lieu de frapper Antoine, il se frappe lui-même. « Brave Héros, dit Antoine en le voyant tomber mort à ses pieds, tu me montres l'exemple. » Il s'enfonce son épée dans la poitrine et s'affaisse sur un petit lit. Après quelques minutes, Antoine reprend ses sens. Il appelle des esclaves, des soldats, supplie qu'on l'achève. Personne n'ose exaucer sa prière, et on le laisse seul, hurlant et se débattant sur le lit. Pendant ce temps, on a averti la reine. Sa douleur est profonde et ardente, et d'autant plus cruelle qu'il s'y mêle le remords. Elle veut revoir Antoine. Elle ordonne qu'on le lui amène vivant ou mort. Diomède, le secrétaire de Cléopâtre, court au palais. Antoine n'a plus qu'un souffle de vie. La joie d'apprendre que la reine n'est pas morte le ranime. « Il se lève, dit Dion Cassius, comme s'il pouvait encore vivre. Des esclaves le portent dans leurs bras. Pour presser la marche, les supplications, les invectives, les menaces sortent de sa bouche avec les hoquets de l'agonie. On arrive devant le tombeau. La reine se tient penchée à une fenêtre de l'étage supérieur. De peur d'une surprise, elle ne fait pas lever la herse. Mais elle jette des cordes à terre et ordonne qu'on y attache Antoine. Puis, aidée de ses deux femmes, Iras et Charmion, les seules personnes qu'elle ait amenées dans le mausolée, elle commence à le hisser vers elle. « Ce n'était point aisé pour des femmes, remarque Plutarque, que de monter ainsi un homme de la stature d'Antoine. Jamais, au dire des témoins, on ne vit spectacle plus émouvant et plus digne de pitié. Cléopâtre, les bras raidis et la face contractée, tirait les cordes avec effort, tandis qu'Antoine, tout ensanglanté et prêt de mourir, se soulevait autant qu'il le pouvait et tendait vers elle ses mains défaillantes. Enfin, Cléopâtre attira Antoine à elle et le déposa sur un lit où elle le tint longtemps embrassé. Sa douleur s'épanchait en pleurs, en sanglots, en baisers désespérés. Elle appelait Antoine son époux, son maître, son empereur. Elle meurtrissait ses seins, y enfonçait les ongles. Puis elle se rejetait sur lui, baisait sa blessure, en essuyait le sang avec son visage. Antoine s'efforçait de la calmer et de la consoler, et l'engageait à veiller à sa sûreté. Dévoré par la fièvre, il demanda à boire et vida une coupe de vin. La mort approchait. Cléopâtre reprit ses gémissements. « Ne t'afflige pas, dit-il, pour mon dernier revers. Félicite-moi plutôt des biens dont j'ai joui dans ma vie et du bonheur que j'ai eu d'être le plus illustre et le plus puissant des hommes. Félicite-moi de ce que, étant romain, je n'ai été vaincu que par un romain. » Il expira dans les bras de Cléopâtre, mourant, comme dit Shakespeare, où il avait voulu vivre. Octave, ayant appris le suicide d'Antoine, dépêcha Proculeius et Gallius avec l'ordre de s'emparer de Cléopâtre, avant qu'elle n'eût le temps de se donner la mort. Leurs appels attirèrent l'attention de la reine. Elle descendit et commença à parlementer derrière la herse. Sourde aux promesses et aux protestations des deux Romains, Cléopâtre déclara qu'elle ne se livrerait que si Octave s'engageait par serment à maintenir elle ou son fils sur le trône d'Égypte. Autrement, César n'aurait que son cadavre. Proculeius, avisant la fenêtre qui avait donné accès à Antoine, laissa son compagnon s'entretenir seul avec la reine. Il trouva une échelle, l'appliqua contre l'épaisse muraille, pénétra dans le tombeau, en descendit l'escalier intérieur et s'élança sur Cléopâtre. Charmion, se retournant au bruit, cria « Malheureuse reine, te voilà prise vivante !» Cléopâtre tira rapidement pour s'en frapper un poignard que depuis quelque temps elle portait toujours à sa ceinture. Mais Proculeius lui saisit le poignet et ne la laissa se dégager qu'après s'être assuré qu'elle n'avait sur elle ni une autre arme, ni quelque flacon suspect. Il reprit alors l'attitude respectueuse que commandaient et le rang et l'infortune de la royale captive. Il l'assura qu'elle n'avait rien à redouter d'Octave. « Reine, lui dit-il, tu es injuste envers César, à qui tu veux ôter la plus belle occasion de montrer sa clémence. Son trésor et sa personne, au pouvoir des Romains, Cléopâtre se sentait sans armes pour défendre sa couronne. Que lui importait que César lui laissât la vie, puisque désormais elle ne voulait plus que mourir? Elle demanda comme seule grâce à rendre à Antoine les honneurs funèbres. Bien que la même requête eût été déjà présentée à Octave par des capitaines de son armée qui avaient servi sous Antoine, l'empereur, pris de pitié, accéda à la prière de l'Égyptienne. Cléopâtre lava le corps de son amant. Elle le para, l'arma comme pour un dernier combat. Puis elle l'ensevelit dans ce tombeau qu'elle avait fait construire pour elle, et où elle n'avait pu trouver la mort. Après ses funérailles, la reine se laissa mener, d'après les ordres d'Octave, dans le palais des Lagides. On l'y traita avec les plus grands égards, mais elle y était, pour ainsi dire, gardée à vue. Les émotions terribles par où venait de passer Cléopâtre, l'immense douleur qui l'accablait, enfin les coups qu'elle s'était donnés au sein pendant l'agonie d'Antoine, déterminèrent chez elle une inflammation de poitrine, accompagnée d'une fièvre ardente. Elle vit dans ce mal la mort tant désirée. Et pour hâter sa délivrance, elle refusa pendant plusieurs jours tout médicament et toute nourriture. Octave en fut instruit. Il lui fit dire qu'elle oubliait qu'il avait ses 4 enfants pour otages, et que leur vie lui répondait de la sienne. Cette odieuse menace vainquit la résolution de Cléopâtre, qui consentit à se laisser soigner. Octave, cependant, ne laissait pas d'être inquiet. Si la fierté de la reine allait l'emporter sur les sentiments de la mère, si l'horreur de figurer comme captive dans le prochain triomphe déterminait Cléopâtre à se donner la mort. Sans doute, elle était bien gardée, mais quelque négligence ou quelque trahison n'était-elle pas à redouter? La reine, d'ailleurs, faute d'armes et de poison, ne pouvait-elle pas se faire étrangler par la fidèle Charmion? Or, Octave estimait, selon le mot de Dion Cassius, que la mort de Cléopâtre l'eût frustrée de toute sa gloire. Il pensa à voir l'Égyptienne afin de la rassurer. Octave se savait assez maître de lui pour ne point s'engager. Il se croyait assez habile pour mettre la reine dans l'incertitude du sort qui lui réservait. Cléopâtre, le récit de Plutarque ne saurait laisser aucun doute à cet égard, ne s'abusait plus sur les prétendus sentiments d'amour qu'au dire de Tiréus, elle avait inspiré à Octave. Depuis que l'empereur était à Alexandrie, il n'avait même pas exprimé son intention de la voir, et le rigoureux traitement, la réclusion sévère qu'il lui infligeait, les atroces menaces qu'on lui transmettait de sa part, ne décelaient pas un homme épris. Peut-on dire cependant qu'à l'annonce de la soudaine visite d'Octave, Cléopâtre, si désespérée qu'elle fût, n'eut pas une lueur d'espoir, une fugitive vision du trône, un dernier élan vers la vie? Peut-on dire qu'il ne passa pas, dans ses beaux yeux, un suprême éclair de triomphe entrevu? La reine, à peine convalescente, était couchée quand Octave entra. Elle sauta à bas du lit, quoiqu'elle ne fût vêtue que d'une tunique, et se jeta à ses genoux. En voyant cette femme, épuisée par la fièvre, amaigrie, horriblement pâle, les traits tirés, les yeux battus et rouges de larmes, portant sur son visage et sur sa poitrine les stigmates que ses ongles avaient marqués dans sa chair, Octave eut peine à croire que ce fût l'enchanteresse qui avait captivé César et asservi Marc-Antoine. Au reste, Cléopâtre eût-elle été plus belle que Vénus, qu'il se fût défendu de l'aimer. La continence était le moindre défaut d'Octave, mais il était trop prudent et trop avisé pour sacrifier jamais ses intérêts à ses passions. Il engagea la reine à se remettre au lit et s'assit auprès d'elle. Cléopâtre commença à se justifier, rejetant tout ce qui s'était fait sur les circonstances et sur la crainte que lui inspirait Antoine. Elle s'arrêtait souvent de parler, les sanglots lui coupant la voix. Puis, dans l'espérance d'apitoyer Octave, de le séduire, a-t-on prétendu, elle tirait de son sein des lettres de César, les baisait et s'écriait « Si tu veux savoir comment ton père m'aimait, lis ces lettres. Ô César, que ne suis-je morte avant toi, mais pour moi tu renais dans celui-ci. » Et au milieu de ses larmes, elle essayait de sourire à Octave. Lamentable scène de coquetterie que la malheureuse femme ne pouvait plus, ni ne savait plus jouer. À ses soupirs, à ses gémissements, l'empereur ne répondait rien, évitant même de la regarder, et tenant ses yeux fixés à terre. Il prenait seulement la parole pour rétorquer un à un tous les arguments à l'aide desquels la reine tentait de se justifier. Glacée par l'impassibilité de cet homme, qui, sans être aucunement ému de ses malheurs et de ses tourments, discutait avec elle comme un magistrat instructeur, Cléopâtre comprit qu'elle n'avait aucune pitié à espérer. La mort lui apparut de nouveau comme la suprême libératrice. Alors elle arrêta ses plaintes et sécha ses larmes, et afin de tromper Octave sur sa résolution, elle affecta de se résigner à tout, pourvu qu'on lui laissât la vie. Elle présenta à César l'inventaire de ses trésors et le supplia de lui permettre de conserver certaines parures afin qu'elle pût les offrir elle-même à Livie et à Octavie pour gagner leur protection. « Prends courage, ô femme !» lui dit l'empereur en la quittant. aie bon espoir, il ne te sera fait aucun mal. » Abusé par la feinte résignation de Cléopâtre, Octave ne doutait plus de montrer à la populace romaine l'altière reine d'Égypte, marchant enchaînée devant son char de triomphe. Il n'avait pas entendu, en partant, le dernier mot murmuré par Cléopâtre, ce mot que depuis la prise d'Alexandrie, elle se répétait sans cesse, « Je ne servirai pas au triomphe ». Quelques jours après cet entretien, un familier d'Octave, prenant en pitié une si grande infortune, révéla secrètement à Cléopâtre que le surlendemain, on l'embarquerait pour l'Italie. Elle demanda à aller faire avec ses femmes des libations sur le tombeau d'Antoine. On l'y porta en litière, car elle était encore trop faible pour marcher. Elle répandit le vin, posa les couronnes, puis elle embrassa une dernière fois la pierre du sépulcre en disant « Oh, cher Antoine, si tes dieux ont quelque puissance, car les miens m'ont trahi, n'abandonne pas ta femme vivante. Ne souffre pas qu'on triomphe de toi en la faisant figurer à Rome au milieu d'une pompe fatale. Cache-moi avec toi sous cette terre d'Égypte. » À son retour, Cléopâtre se mit au bain. Ses femmes la vêtirent de ses plus beaux habillements, la coiffèrent avec soin et ajustèrent sur sa tête la couronne royale. Cléopâtre avait commandé un repas magnifique. Sa toilette achevée, elle prit place à table. Un paysan entra qui portait un panier. Les soldats de garde, ayant voulu voir ce que contenait ce panier, l'homme l'avait ouvert, avait montré des figues, et ceux-ci, s'extasiant sur leur beauté, il les avait invités à y goûter. Sa bonne humeur éloignant tout soupçon, on l'avait laissé passer. Cléopâtre prit le panier, fit porter à Octave une lettre que le matin elle avait écrite pour lui, puis elle resta seule, avec Iras et Charmion. Elle ouvrit le panier et écarta les fruits. Elle espérait être piquée à l'improviste, mais le reptile dormait. Cléopâtre l'aperçut sous les figues. « Le voilà donc » s'écria-t-elle. Et elle se mit à l'exciter avec une épingle d'or. L'aspic la piqua au bras. Averti par la lettre de Cléopâtre, Octave fit courir à ses appartements. Les officiers de l'empereur trouvèrent les gardes à leur poste, ignorant ce qui venait de se passer. Ils forcèrent la porte et virent Cléopâtre, vêtue de ses habillements royaux, couchée sans vie sur son lit d'or. Au pied du lit était le cadavre d'Iras. Charmion respirait encore. Penché sur Cléopâtre, elle lui arrangeait de ses mains défaillantes le diadème autour de la tête. Un soldat s'écria d'une voix courroucée, « Voilà qui est beau, Charmion !»« Oui, dit-elle, en mourant, cela est très beau et digne d'une reine issue de tant de rois. » Octave fit mettre à mort Césarion, le fils que l'Égyptienne avait eu de César, mais il se montra clément envers le cadavre de Cléopâtre. Selon la prière désolée que la reine lui en avait faite dans sa dernière lettre, il permit de l'enterrer à côté d'Antoine. Il accorda aussi une sépulture honorable aux deux fidèles esclaves, Charmion et Iras, qui avaient voulu accompagner leur maîtresse chez les ombres. Par le suicide, Cléopâtre s'était soustraite au triomphe d'Octave. À défaut de sa personne, l'empereur eut son effigie. On porta à Rome, dans le cortège triomphal, la statue de Cléopâtre avec un serpent enroulé autour du bras. Mais ne semble-t-il pas que la statue de cette reine illustre, qui avait soumis le plus grand des Romains, qui avait fait trembler Rome, et qui, aimant mieux mourir qu'assister à son humiliation, avait par sa mort triomphé de son vainqueur, défiait encore le Sénat et le peuple sur le chemin du Capitole. On représente volontiers Cléopâtre comme une grande reine, rivale de la fabuleuse Sémiramis et sœur aînée de Zénobie, des Isabelles, des Marie-Thérèse et des Catherines. La vérité, c'est qu'il n'y a de grandes reines que celles qui ont les vertus viriles et qui mènent les peuples et préparent les événements comme le ferait un grand roi. Cléopâtre était trop essentiellement femme pour compter parmi ses glorieux androgynes. Si pendant 20 ans elle conserva le trône et maintint l'Égypte indépendante, elle y réussit par les seuls moyens de la femme. L'intrigue, la galanterie, la grâce et la faiblesse, qui est aussi une grâce. Pour régner, elle ne sut en réalité qu'être la maîtresse de César et la maîtresse de Marc-Antoine. C'était l'épée romaine qui soutenait le trône des Lagides. Quand, par la faute de Cléopâtre, l'arme fut brisée, le trône s'écroula. L'ambition, son unique vertu de souveraine, se serait bornée, si les circonstances ne l'avaient développée et exaltée, à l'exercice de la royauté héréditaire. Se sentant d'ailleurs sans force, sans génie et sans volonté, elle ne comptait que sur ses amants pour accomplir ses desseins. Encore arrivait-il à cette femme, fatale aux autres comme à elle-même, d'en retarder l'exécution, dominée par le désir impérieux de quelque fête ou de quelque amusement. Cette reine avait l'insouciance des courtisanes. Les filles galantes pourraient la revendiquer comme une ancêtre auguste et tragique. Elle vécut pour l'amour, le faste et la superbe. Aussi, quand elle vit son amant tué, sa beauté flétrie, ses richesses perdues et sa couronne brisée, trouva-t-elle devant la mort le mâle courage qui lui avait manqué pendant la vie. Non, Cléopâtre ne fut pas une grande reine. Sans sa liaison avec Antoine, elle serait aussi oubliée qu'Arsinoé ou Bérénice. Si elle a une immortelle renommée, c'est qu'elle est l'héroïne du plus dramatique roman d'amour de l'Antiquité. Juin-septembre 1889.